On rétablit le silence. On se remet dans cette attitude, mais on a déjà commencé avec les lodes. Moi, ça m'a parlé cette phrase finale de la raison finale quand il dit sans rien préférer à ton amour, que nous avancions dans la liberté. Sans rien préférer à ton amour, que nous avancions dans la liberté. Parce que ça me semblait vraiment lié à ce que aujourd'hui je voudrais vous dire. Je devrais dire ce que aujourd'hui je voudrais vous raconter, mais pas des histoires, mais une histoire que tout le monde connaît d'ailleurs. Et je suis un peu comment dire ému. Je suis un peu ému parce que cette page, ça a été la page qui m'a fait dire à Claude, oui, je viens à la retraite. Donc, c'était en juillet de l'année dernière. En vacances, j'étais en montagne, je marchais et je lisais l'évangile de Luc. Et en lisant l'évangile de Luc, je commençais du premier chapitre, je ne l'avais jamais fait. Donc j'ai commencé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième. Je suis arrivé au septième. À la fin du septième chapitre, j'ai trouvé une page et depuis ce moment-là, j'ai arrêté. Et ça fait un an que je lis cette page. Et donc, je vous la lis. C'est Luc 7, 36, 50. Un pharisien l'invita, Jésus, à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre, se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds des larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, » dit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel de deux l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » En se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et je vous propose de méditer ensemble cette page de l'Évangile de Luc qui me semble être au cœur de ce qui signifie faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en fait, le thème devrait être ça. Mais en fait, vous verrez, le thème, c'est une suite de la journée d'hier. Non, c'est une suite de la découverte nouvelle de l'amour de Dieu. Je voudrais commencer par un psaume, le début du psaume 32, versets 1 et 2, juste le commencement. Heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas. Bienheureux, c'est moi maintenant qui parle, bienheureux est l'homme dont la faute est pardonnée et le péché est pardonné. La personne qui est sans mal et sans péché, qui d'ailleurs n'existe pas, n'est pas dite bienheureuse. La félicité est que nous sommes pardonnés de la culpabilité et du péché. Le texte d'aujourd'hui en est un exemple magnifique. Et donc, une première question à partir de laquelle méditer. Quelle est notre image de Dieu? Nous sommes au chapitre 7 de Luc. Jésus, dans le chapitre qui précède celui-ci, fut accusé d'être l'ami des publicains et des pécheurs, et d'être un glouton et un ivrogne. Maintenant, nous avons cette page un peu gênante, à vrai dire, qu'on aurait bien fait de la supprimer de l'Évangile. En fait, il y a eu cette tentative de la supprimer. Ce n'est pas évident que cette page soit gardée dans l'Évangile de Luc. C'est le seul texte dans lequel Jésus lui-même, comme nous le lisons dans un passage parallèle des autres Évangiles, Marc, Jean et Matthieu, seulement de cette femme, Jésus dit « Mais cette chose qu'elle a faite est très belle. » La seule belle chose que Jésus nomme se trouve dans ce texte inconvenant que nous lisons maintenant et que nous allons essayer de méditer. Car il contient le centre de l'Évangile. Mais c'est quand même un texte gênant et embarrassant. Vous imaginez, une femme entre, elle se met derrière moi, elle commence à... C'est quand même un peu bizarre, non? C'est quand même un peu bizarre. Si le pape était là, une pécheresse, une prostituée entrait, et commençait à faire ça, je ne sais pas. Je commence par la fin. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Ce que cette femme fait, son agir concret, est la foi qui sauve. Là, c'est la clé. L'agir concret est la foi qui sauve. Je commence par la fin parce que ce que cette femme fait, sa foi, nous montre l'attitude chrétienne fondamentale. Nous connaissons bien deux autres attitudes qu'on pourrait avoir envers Dieu, et ces deux attitudes sont décrites dans l'épisode des deux frères de l'évangile de Luc, au chapitre 15, le fils prodigue. D'un côté, le frère aîné qui sert Dieu, connaît bien ses devoirs, est bon, ne transgresse aucun précepte. C'est la personne la plus parfaite, c'est-à-dire l'homme qui sacrifie sa vie à Dieu. De l'autre, l'attitude de celui qui dit qu'un tel Dieu vaut mieux ne pas l'avoir. Parce qu'il prend ta vie et il t'étouffe. Il vaut mieux se révolter. C'est la position du jeune frère qui ne veut pas vivre une vie faite de devoirs à accomplir, qui ne veut pas d'une vie à sacrifier à Dieu et qui donc choisit son propre plaisir. C'est qui se soumet à Dieu, de l'autre côté, qui se révolte. On pourrait même dire qu'au fond, les deux frères ont la même image de Dieu. Le premier se soumet, le deuxième s'échappe. Le bon religieux qui suit Dieu et fait son devoir, et ceux qui se rebellent ont la même image de Dieu, même l'athée. Le Dieu que l'athée nie est un Dieu exigeant qui est devoir. C'est pour cela qu'il se rebelle, pour avoir son plaisir. Eh bien, voici présentée dans l'Évangile la seule personne qui a compris quelque chose. parce qu'elle aime et sort enfin de cette terrifiante dialectique contre-position du Dieu que tu dois servir d'esclave ou à qui tu te rebelles. Ici est présentée la religion, le christianisme, la religion de l'amour. Et voilà pourquoi la question centrale est qui est-ce qui aimera le plus ? Pas qui fait le moins d'erreurs, pas non plus qui est le plus parfait ou le meilleur. Celui qui fait de son mieux ce qu'il pense être la volonté de Dieu. Qui est celui qui aimera le plus ? Il se trouve que c'est lui à qui a été pardonné le plus. Donc, celui à qui a le plus péché. Cette page nous présente donc un nouveau type de religion qui est l'essence de l'évangile. C'est bizarre, non ? J'ai dit une phrase un peu bizarre. Hein ? Je la répète. Elle dit, il se trouve que celui qui aimera le plus est celui à qui a été pardonné le plus. Donc, celui qui a le plus péché. Normalement, on pense on pense la sainteté comme à devenir parfait. Mais comme il n'y a personne qui est parfait, personne n'est saint. Et donc, comme on doit devenir saint, ben on est foutu. Voilà. C'est simple. Mais si on a cette idée dans la tête, la conséquence est que, et c'est la découverte de Paul, Paul, il était un juif parfait. Et à un moment donné, il dit, moi je me suis rendu compte que je cherchais la perfection et j'ai tué Dieu. J'allais contre Dieu. Alors, quelles sont nos idoles ? Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. C'est le début. Jésus donc accepte une invitation. Il venait d'être accusé d'être un glouton, un ivrogne, un ami des pêcheurs, des prostituées et des collecteurs d'impôts. Et voilà qu'il accepte l'invitation d'un pharisien, d'un juste. Jésus va souvent manger chez les justes. Ce sont des scènes très instructives dans lesquelles il se passe toujours quelque chose qui nous fait comprendre quelque chose d'essentiel, de la bonne nouvelle que Jésus annonce. Ce pharisien est un juste. Souvenez-vous de Jonas qui reproche à Dieu d'être gracieux, longanime, miséricordieux et d'un grand amour envers les Ninivites. Jonas, il est parfait, il est un juif parfait. Un Dieu qui pardonne n'est pas Dieu. Dieu doit punir le mal et nous récompenser pour le bien qu'on a fait. Et donc, il y a un péché spécifique du juste, de ne pas comprendre et accepter l'amour gratuit de Dieu. Pour le juste, l'amour est acheté avec des bonnes œuvres. Cela soutient l'image de Dieu que parfois nous avons, c'est-à-dire l'hypothèse que Dieu soit vindicatif. Il faut donc le garder bon. Sinon, il nous punit énormément, le châtiment à l'enfer. Cette image de Dieu est l'écueil fondamental de toutes les religions. Mais c'est aussi l'élément saint de tous les athéismes qui renient ce Dieu affirmé par les religions, car ce n'est pas Dieu, mais c'est l'image de Dieu que le serpent de Genèse 3 nous montre. Et que nous tous, nous avons à l'intérieur. L'Évangile nous révèle progressivement cette fausse image de Dieu, jusqu'à la révélation ultime et définitive sur la croix, où nous verrons Dieu donner sa vie pour nos pécheurs. C'est le contraire de cette image de Dieu qui veut nous étouffer. Luc écrit pour le noble Théophile, vous vous souvenez du début de l'Évangile, non ? Eh bien, Théophile est un croyant qui fait bien les choses. Alors, une chose que j'ai apprise pendant ces deux années de travail sur l'Écriture, c'est qu'en fait, l'Écriture, ce n'est pas écrite pour moi. Moi, je suis dedans l'Écriture, je suis un personnage de l'Écriture. Eh bien, ici, le personnage, c'est le noble Théophile, c'est moi le noble Théophile. Non, c'est Claude. Non, c'est frère Marcel. C'est sœur André, la noble Théophile. Comment on dit enfin au féminin, ça va. Ok. Théophiline, voilà. Il y a toujours le risque qu'ils deviennent comme les pharisiens et que ces croyances remplacent Dieu. Nos quatre idées sur Dieu et nos quatre bonnes œuvres peuvent toujours devenir nos idoles. Alors, nous ne connaissons plus l'amour, la grâce qui est Dieu. Mais nous connaissons notre moi, nos présomptions, nos projections deviennent notre Dieu et notre certitude. Certitude que nous affirmons contre le monde, même en menant des guerres saintes pour ce Dieu et même en témoignant de lui-même à haute voix. Non ? Les croisades, non ? C'était pour affirmer le véritable Dieu. Et donc on tue le monde, on tue les autres. L'évangile veut être pour ce Théophile et pour nous tous, les bons et les justes, afin que nous ne tombions pas en cette idolâtrie. Et si nous tombons, nous sortions de ce danger constant qui nous menace. Donc la méditation d'aujourd'hui, c'est là. Non ? Il faudrait se mettre face à soi-même et se dire, mais quelle est mon image de Dieu ? Quelles sont mes idoles ? Non ? Qui prennent la place de l'amour. Le danger est de réduire notre rapport avec Dieu à notre justice. Au lieu de renouveler l'expérience de la gratuité de l'amour que Dieu a pour nous. Je continue la lecture. C'est une page magnifique, hein, c'est une page dans les textes que je vous donnerai après. D'ailleurs, je vais voir. Il y a la même page dans l'évangile de Marc, Marc 14, où l'accent est mis davantage sur le parfum. Je vous dirai quelque chose, mais c'est une page magnifique, extrêmement belle à regarder, à contempler. Et donc, l'image est la suivante. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds des larmes et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Alors j'ai acheté ce parfum, hein. Je voulais sentir ce parfum, non ? Le nard de... C'est comme ça le nard ? Non, c'est un parfum très fort, très très fort, hein. Très cher d'ailleurs. Okay. Dans ce passage, nous parlons des pieds de Jésus que cette femme baigne et sèche. Les pieds ne sont pas tant un moyen de locomotion. Ils représentent le signe de l'accueil de Jésus. Imaginez la scène. Dans la maison de ce pharisien, une prostituée entre et vient chercher le grand maître. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend un vase d'albâtre plein de parfum, se met derrière Jésus, pleure, mouille ses pieds, dénoue ses cheveux, sèche ses pieds, continue à baiser ses pieds, les oint de parfum. La scène est très délicate et on peut l'imaginer visuellement et acoustiquement. On entend les baisers, on voit les larmes, on sent le parfum avec le nez. C'est une scène étrange et belle, qui est là pour être surtout contemplée. Donc c'est une pécheresse connue qui savait que Jésus était là. On ne connaît pas son nom. Ni les autres évangiles le disent, sauf Jean, mais parce qu'il change. Mais on ne connaît pas son nom. Mais elle est bien connue en tant que pécheresse. Tout le monde la connaissait, même ce pharisien, car il dit, si Jésus savait qui est cette femme, donc il savait. Elle avait entendu dire que Jésus accueille, qu'il aime tout le monde, même les pécheurs. Et donc, elle désire le connaître. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une scène scandaleuse. Imaginez-la. On signale aussitôt qu'elle prend un vase d'albâtre à parfum. Alors, c'était le parfum qu'il utilisait pour son métier de prostituée. Eh bien, ce parfum remplira la maison. La scène est davantage, elle est plus forte dans l'évangile de Marc, où vraiment le parfum est central. Non ? Mais en fait, c'est quoi le parfum ? Le parfum est quelque chose qui, par sa nature, se donne. Et en hébreu, il fait référence au mot « nom ». Eh bien, le parfum, dans le Cantique des Cantiques, c'est le nom de Dieu. Le Cantique des Cantiques, au verset 3, dit « L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Il est évident qu'ici, les évangélistes, en utilisant le parfum, ils ont voulu faire référence au début des Cantiques des Cantiques, qui est une histoire d'amour entre l'humanité et Dieu. Et donc cela indique que Dieu, par sa nature, se donne gratuitement. Chacun le sent et ne se refuse à personne. Ainsi, le parfum est presque le protagoniste de la scène, avec la femme qui s'y tient derrière, aux pieds de Jésus, et qui pleure. Ses larmes sont des larmes d'amour. Et la question principale de ce texte est précisément de savoir qui aimera le plus. Elle ne dit même pas un mot. Elle accomplit simplement des gestes d'amour. Car l'amour ne se manifeste pas par des mots, mais par des actes. Là aussi, on pourrait méditer, non ? L'amour se manifeste par des actes, pas par des idées. Puis, avec ses cheveux, elle sèche ses pieds et continue à les embrasser. Cette scène est fondamentalement inconvenante pour une personne religieuse. Elle pense, des gens de ce type ne doivent même pas entrer dans notre maison. Et parfois, la maison des justes, c'est précisément l'église. Ces personnes doivent rester dehors, car seules les personnes honnêtes, qui se comportent bien, qui observent les rites, doivent entrer. Il y a bien des rites avec plein de normes à respecter, des liturgies. Eh bien, cette femme les a toutes brisées. Elle n'a pas apporté d'encens. Elle n'avait pas les vêtements appropriés. Elle dénoue ses cheveux, ce qu'une femme fait seulement avec son mari. Et puis commence à lui baiser les pieds, à les laver et à les sécher. D'un point de vue religieux, c'est une scène obscène. Et pourtant, Luc la place au cœur de l'évangile. Il se passe la même chose dans les passages parallèles de Matthieu et Marc. Et Jésus dit que c'est une œuvre très belle. Cette femme fait une œuvre belle. Laisse-la donc tranquille. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité s'est dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui la touche. Est-ce qu'elle est une pécheresse ?» L'attention se tourne de la femme vers le pharisien, qui est également anonyme pour l'instant. Ce pharisien est, il faut le dire, bienveillant avec Jésus. Il voit que Jésus a beaucoup de qualités, mais il n'est pas prophète. Sinon, il saurait qui est et d'où vient la femme qui le touche, et qu'elle est une prêcheresse. Il essaie de justifier Jésus comme nous le faisons, nous, les religieux, les justes. Nous nous portons parfois de la même manière, quand Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Nous le justifions, comme si Dieu avait besoin d'être justifié par nous. Dieu devait se comporter comme nous. S'il ne le fait pas, c'est que le pauvre, il ne sait pas. Il n'est donc pas prophète. Il est bon, hein, mais il ne comprend pas. Jésus, en tant que prophète, doit être juste. Puisqu'il n'est pas juste, il n'est pas non plus prophète. C'est un pauvre qui ne sait rien. Alors, on se met face à la gratuité infinie de Dieu. Et comme on ne comprend pas, on se rebelle et on juge. « Or, ces choses-là, le pharisien le dit en soi-même, mais il n'est pas en dialogue avec Jésus. Voilà la différence. Au lieu de dire quelque chose à Jésus, il marmonne en lui-même. Là aussi, nous pouvons retrouver quelque chose qui nous arrive. De marmonner face à ce que nous ne comprenons pas. Parce que notre image de Dieu ne prévoit pas ce que l'amour suggère à cette femme. Et alors, Jésus prend la parole et dit aux pharisiens. Là aussi, c'est très sympa la scène. Imaginez-la, non? Tout le monde est scandalisé. Et Jésus, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, » dit-il. Jésus, qui n'est pas prophète, répond à ce qu'il pense. Cette fois-ci, il l'appelle par son nom. Eh bien, c'est la première fois que Jésus appelle quelqu'un par son nom dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 7. Appelé par le nom est un signe de grande affection, car Jésus aime ce juste. Il veut lui faire découvrir, à travers cette femme qui est allée déjeuner chez lui, qui est cet homme qui l'a accueilli. Il lui montre qui elle est et qui il est. Jésus qui est. Et de cette manière, la femme devant Simon fait office de miroir. Le texte est construit vraiment de manière... c'est vraiment un miroir. La femme et Simon sont vraiment l'une face à l'autre. Et en fait, ils renversent les positions. Parce qu'au début, c'était le juste et Simon. Et après, la véritable chrétienne devient la femme. Non, et donc, c'est un artifice littéraire très, très lucide d'ailleurs. Ainsi, Jésus montre à Simon qu'elle l'aime comme une épouse, tandis que le pharisien traite Dieu comme si Dieu devait le payer par ses œuvres. Alors Jésus lui dit, « Écoute, Simon, j'ai quelque chose à te dire. » En effet, Luc écrit pour nous qui lisons l'Évangile. C'est nous, le pharisien. Hein? Nous sommes les pharisiens. Il a ceci à dire au noble Théophile. Comme s'il disait maintenant, « Oublions cette femme, noble Théophile. J'ai quelque chose à te dire. » Ainsi, Jésus brise les barrières que Simon avait construites entre Jésus et soi-même pour sortir Simon de son enfermement. Et donc, il rencontre l'épisode du créancier. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lesquels de deux l'aimera le plus? Ces deux débiteurs nous représentent tous. Il faudrait prendre davantage conscience que nous sommes débiteurs de tout ce que nous avons reçu, de la vie, de l'air que nous respirons, de la terre où nous vivons, de ce que nous avons, des relations avec les autres. Nous sommes débiteurs de tout. Nous sommes tous en dette. Or, la véritable question est que tout cela n'est pas une dette à payer, mais un don. Le pharisien est un bon religieux, il fait son devoir et il paye son tribut à Dieu pour un don qu'il considère comme une dette. Et c'est bien cela ce qui change son rapport avec Dieu, parce qu'ainsi il se sent en égalité avec Dieu lui-même. Il a payé sa dette à Dieu avec ses œuvres. Donc, le pharisien ne doit plus rien à Dieu. Cette femme, en revanche, fait un autre choix. Et alors, Jésus donne l'exemple de deux débiteurs qui ont des dettes de poids différents et tous deux sont pardonnés. Puis il demande, qui est-ce qui aimera le plus? Voici le sceau qui change complètement notre rapport à Dieu. Parce que je reconnais que tout m'a été donné et pardonné. Et donc, nous ne sommes pas endettés. Tout nous est donné et pardonné. Voilà le sens de la question. Qui aimera-t-il le plus? Le nouveau problème n'est plus qui est le meilleur, mais qui a fait le moins d'erreurs, qui suit mieux la norme ou qui connaît mieux la loi, mais qui est le plus aimé. C'est une autre sorte de religion. Une autre sorte de religion. Ce n'est plus la religion du devoir ou de la rébellion des deux frères, c'est la religion de l'amour. Il est important d'insister sur le verbe. Il fit grâce, dit le texte, car il n'y a pas de remise de dette, mais de grâce. Dans notre rapport à Dieu, il est question de grâce, parce que la grâce est la communication même de Dieu. Dieu, par grâce, nous communique sa vie, sa propre vie. Dieu se donne à l'homme et l'homme peut se donner à Dieu. Et là, c'est là le sens de la vie, dit Saint Benoît. Il ne s'agissait pas d'être parfait, de se retirer du monde pour être parfait, mais c'est de se retirer du monde pour donner toute sa vie à Dieu. Et le rapport entre Jésus et la femme est véritablement un rapport entre époux qui se donnent mutuellement tout ce qu'ils sont. Jésus vient nous annoncer Dieu qui est amour gracieux et ainsi un rapport tout à fait nouveau avec Dieu, une image de Dieu véritable, véritablement inouïe. Il n'y a aucune autre religion qui propose ça. Si on cherche une spécificité du christianisme, là voilà, l'une. Mais alors, lesquels d'entre eux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » La réponse de Simon montre qu'il a bien compris, « Tu as bien jugé. » L'amour est proportionnel à l'expérience que nous avons faite du don reçu. Et le pécheur a une expérience beaucoup plus grande de la grâce, du don reçu. Donc, ayant reçu plus, il aimera plus. C'est la première considération à faire. Mais qu'en est-il de ce que les justes appellent le mal, de ce que la loi interdit ? Parce que vous vous souvenez aussi que Jésus dit que rien de la loi sera effacé. Donc la loi a un sens. Parce qu'autrement, on pourrait dire, bon d'accord, alors on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Là aussi, l'annonce de la bonne nouvelle est révolutionnaire. L'Évangile, à chaque page, nous annonce qu'il m'est inutile de me défendre de Dieu, de cacher le mal fait ou de faire semblant de faire le bien. Car le mal est précisément le lieu où Dieu m'aime le plus, me pardonne le plus, comme le lieu même de la rédemption et de l'amour. Il faudrait réfléchir un peu sur l'Évangile de Matthieu, mais davantage l'attention sur la loi, mais on pourra. Mais je vous dis simplement, mon expérience personnelle, c'est que en me nourrissant de la parole, l'expérience que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, le mal, d'une certaine manière, dans ton cœur, s'efface. Si tu aimes et tu te nourris de la parole, à un moment donné, les fruits ne sont pas cherchés en toi-même. À un moment donné, quelque chose en nous devient force qui te porte à aimer les autres. D'accord. Sous cette forme, dans cette attitude d'amour, c'est précisément le mal et les péchés qui deviennent la raison d'aimer davantage, de ressembler davantage à Dieu, comme le dit la lettre aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça va ? Comment ça va ? Ça va, Sœur André ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a déjà de quoi, hein ? Donc, moi, j'aurais encore quelque chose à dire, mais je voulais. Qu'est-ce que vous en pensez ? 10 minutes ? Ça va ? Cela ne veut pas dire que nous devons parler de péché davantage, mais que nous devons être davantage conscients du don qui nous est fait. Le christianisme est la religion de qui aimera le plus. C'est la religion de la rédemption. Eh bien, cela bouleverse toute religiosité. C'est le dépassement de toute religiosité qui a une vision marchande de la religion non, de la relation à Dieu, dans lequel on donne à Dieu parce qu'on veut avoir. Quand Jésus chasse les vendeurs du temple, ce n'est pas qu'il chasse les méchants, mais il chasse tous ceux qui ont une sorte de prière de ce type-là. Tu me donnes ce pourquoi je prie, ce pourquoi je paye. Ce sont eux qu'il classe comme vendeurs, commerçants du temple. L'évangile est le dépassement de cette conception de toute religiosité fatalement imprégnée de ce critère. C'est vraiment Genèse 3, hein? C'est vraiment Genèse 3. C'est le péché des origines, on dit comme ça, d'origine. Quand Jérémie, au chapitre 31, dit que Dieu établira une alliance nouvelle, hein, car l'ancienne a toujours été transgressée, hein, comme Paul arrive à comprendre, hein, qu'il mettra au cœur nouveau, un cœur nouveau en nous, qu'il mettra son esprit en nous, il dit que, alors, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, car tous leurs péchés seront pardonnés. Donc, tous me connaîtront, pas que les chrétiens. C'est dans le pardon des péchés que nous savons qui est Dieu. Dieu amour et l'amour pardonne toujours. Et enfin, nous connaîtrons qui est Dieu quand le Fils que nous avions mis sur la croix sera ressuscité. En dehors de la croix, en dehors d'un Dieu qui donne sa vie pour nous, nous ne connaissons pas Dieu. Paul aussi peut dire qu'il connaît Jésus parce qu'il sait qu'il est mort pour lui. Il est mort pour le pécheur dont Paul est le premier. Il comprend sa valeur car Dieu l'aime tel qu'il est. Donc nous comprenons sa valeur parce qu'il nous aime tel qu'il nous sommes. Il comprend sa propre identité qui est la grâce que Dieu a pour lui. Donc mon identité est la grâce que Dieu a pour moi. Je suis la grâce de Dieu pour moi. Et ainsi je comprends qui est Dieu. Le juste... il va bien, il va bien. Il ne fait rien de mal. Il ne fait rien de mal. Mais le juste risque de rester un comptable qui fait des calculs avec Dieu. Il traite Dieu véritablement de prostitué. C'est un peu fort ça, mais vous comprenez, c'est un changement de regard de la page de l'Évangile. Il traite Dieu véritablement de prostitué et il lui paye l'addition. Ce qu'il lui doit pour le peu d'amour que Dieu lui accorde. En lui donnant la vie, et on doit, pour le peu d'amour que Dieu lui accorde, et le souffle, pardonnez-moi, ce que lui doit, pour le peu d'amour que Dieu lui accorde, en lui donnant la vie et le souffle, et pour le peu de paradis auquel il aura droit. Nous faisons tout bien, bon, voilà, la liste est vide, ou presque vide. Éventuellement, on va se confesser, c'est bon, ça va, on va effacer les choses. Et en 6 pierres, quand on rentre au paradis, voilà, c'est... Ça, c'est l'image qu'on souvent on donne aux jeunes. Hein. Je ne m'émerveille pas que les jeunes, à un moment donné, disent « Bon, écoutez, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. » Qui sait que les nuits ont fini d'être toujours avec Dieu dans ses attitudes ? Ici, au lieu de cela, nous voyons que le mensonge du serpent sur Dieu cesse. Dieu est amour infini et qui l'aimera davantage? Justement celui qui a fait le pire et qui est conscient, mais qui est conscient du pardon et de l'amour et qui comprend que l'amour est la seule rançon possible pour chaque personne et pour chaque mal. Nous l'aimons non pas parce que nous le devons, mais parce que c'est la rédemption de tout ce que nous cachons. Eh bien, en se tournant vers la femme, maintenant Jésus change d'attitude, non, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés sont nombreux, c'est que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui qui a pardonné, on pardonne peu, montre peu d'amour. Eh bien, il faut se souvenir que cette page n'est pas écrite pour les pharisiens, mais pour les chrétiens, pour nous. Et la maison est déjà un symbole de l'Église. Les deux attitudes religieuses sont toujours là. Et c'est une attitude que nous avons parfois, par exemple, quand on dit « pour moi, être chrétien, c'est aller à la messe le dimanche matin » ou au soir, parce que le matin, je vais en balade. Pour moi, être chrétien, c'est aller à la messe à Noël, me confesser une fois par an. Non, le chrétien qui pratiquant, il doit faire très peu de choses, si vous voyez, hein, pour être pratiquant. Non. Au lieu de cela, Jésus fait la comparaison et montre qui est la prostituée. Dans la parabole, il est dit que celui qui aime le plus sera le plus pardonné. Et dans la finale, il est dit autre chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Et le texte grec écrit « Alors, elle a beaucoup aimé » à la place de « Parce qu'elle a beaucoup aimé ». Dans le premier cas, on dit que l'amour est une conséquence du pardon. Au lieu de cela, on dit ici que l'amour est la cause du pardon. Comme pour dire qu'entre l'amour et le pardon, il y a un cercle qui continue toujours indéfiniment. Nous aimons parce que nous sommes pardonnés parce que nous aimons. L'amour et le pardon vont ensemble. Plus j'expérimente le pardon et plus j'expérimente l'amour. Plus j'expérimente l'amour et plus j'entre dans le pardon. La personne honnête, mais sans amour, ou avec peu d'amour, ne fait pas l'expérience de cet amour qui grandit toujours davantage. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Ah, pardonnez-moi, je vous dis une chose encore, parce que le fait que Jésus pardonne de cette manière, c'est-à-dire qu'il pardonne qui a péché, c'est une action divine, véritablement divine. Et là, comment dire? C'est comme si l'évangile de Luc nous disait, vous avez une idée de divinité de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous donne la loi, tout ça, d'accord. Mais en fait, la véritable identité de Dieu, c'est de pardonner. Oh. Mais ça libère énormément, non? Ça libère énormément. Une personne m'aime et je l'aime en retour. Voilà le christianisme. Dieu m'aime, je l'aime en retour et pour aimer Dieu en retour, j'aime mes frères et mes sœurs. C'est simple, non? Pour moi, ça a été un changement total. Après avoir étudié pendant 20 ans la théologie, la philosophie et tout ça, oh, Dieu m'aime, je l'aime en retour, et j'aime mes frères et mes sœurs. Et ça, c'est le christianisme. Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus dit à la femme ce qui s'est déjà passé et sait que ses péchés ont été pardonnés. Ils lui ont été enlevés parce qu'elle a beaucoup aimé et que l'amour surmonte tout mal. Immédiatement, les convives se demandent « Qui est celui qui remet les péchés ?» On peut aussi le traduire ainsi. « Puisque seul Dieu pardonne les péchés, il blasphème. Car Dieu le seul peut pardonner les péchés. » Alors qui est Jésus? Eh bien, il est Dieu. Il est l'époux et cette femme l'aime comme une épouse. Cette femme est la prostituée dont on parle Osée, qui reviendra tombée amoureuse de son mari comme au temps de sa jeunesse. Jésus conclut alors avec la femme en lui disant que ta foi t'a sauvée. C'est la foi de la femme qui est au premier plan et sa foi lui a fait faire ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est ce que Jésus appelle la foi. Non pas la foi du pharisien, mais son expérience de la grâce et la façon dont elle la vit. La foi qui est yeux, cheveux, baiser, larmes, cœur. Cet amour passionné qui répond à la mort, à l'amour. Ce n'est pas la foi comme l'assentiment rationnel aux vérités révélées. Je cite Saint Thomas d'Aquin là. Ce n'est pas la foi comme l'assentiment rationnel aux vérités révélées. La foi est cet amour passionné pour Dieu. C'est cette foi qui nous sauve. Avoir foi signifie répondre à la façon dont Dieu me connaît et même avec la même connaissance et le même amour. Cette femme est le prototype désormais de l'épouse qui est égale à l'époux. Elle est l'image parfaite de l'Église qui, de prostituée, devient épouse et est égale à l'époux parce qu'elle aime du même amour. Les autres, les justes, ne feraient jamais des choses aussi exagérées. Le texte est à méditer longuement, car il est trop beau et tout commentaire le gâche, comme vous le voyez. Mais Jésus ne commente pas. Ça, c'est intéressant. Jésus ne commente pas les gestes de la femme. Non ? Il le rappelle, mais il ne fait pas le commentaire de ce que la femme fait. Même Jésus ne commente pas. Face à cette œuvre belle, il propose lui-même une sorte de contemplation. Et donc, il ne répond pas aux convives. Qui continuent avec leur raisonnement. Il dit tout simplement, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. »
On va dire merci à Gianluca parce que j'ai envie de t'appeler Théophile parce que tu as reçu la parole de Jésus en Saint-Luc comme Théophile et ça t'a changé la vie et tu nous as transmis au-delà de ton commentaire, tu nous as transmis aussi ton expérience et c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, non? Donc, je ne vais pas faire un autre commentaire. Mais c'est un témoignage et c'est un témoignage qui nous... Moi, je pense que... qui nous demande de retourner chacun au chapitre 7, versets 36-50, et de se mettre à l'écoute, même s'il n'y a pas de papier cette fois-ci.
En fait, j'ai oublié de copier. Je ne sais pas si...
Photocopie 48, 47. Donc, oui, moi, ce qui me semblait très beau, c'est cette parole. Enfin, je pense que chacun d'entre nous en a eu une sur laquelle il va revenir. Pour moi, c'était « il fit grâce ». Ça veut dire cette grâce, il nous a revêtus de lui-même, au fond. Hein. Donc, on a un nouvel habit qui est celui de la grâce. Il fit grâce. C'est pas seulement, c'est presque plus que pardonner, c'est te revêtir de ce vêtement neuf qui fait de nous un autre Jésus, voilà.
Je vous dis simplement un tout petit effet en moi, tout simple. Non, en méditant cette page, cette idée que Dieu m'aime, qu'aime tout le monde, par grâce, que tout le monde est aimé par Dieu, donc tout le monde est... Je n'ai qu'à faire avec des frères et des sœurs. Et donc, je rentrais dans, au lycée, dans la porte de l'établissement, et mais vraiment, mon regard sur chacun était changé. Mais c'était simple, incroyablement simple. Tu es mon frère, tu es ma sœur, Dieu t'aime. Il n'y avait rien d'autre à penser. Parce qu'on pourrait penser, celui-là, il est un peu bizarre. Celui-là, il n'est pas chrétien. Celui-là, quand même, d'accord, je l'évite. Non, à un moment donné, tout ça, c'est effacé. Et on est frères et sœurs, et Dieu nous aime tous tels que nous sommes. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est même beau d'aller au boulot, non?
Un grand, grand, grand merci. Moi qui suis une sœur de la justice de Dieu, on va avoir des choses à voir. Voilà. Avant de partir pour continuer la méditation en silence, soit dehors, soit à l'église, soit où vous vous sentez le mieux, deux petites choses. Nous allons avoir l'Eucharistie à 12:50 et ceux qui veulent donner une intention de prière, vous pouvez l'écrire et la confier à Isabelle qui va la lire au moment des intentions de prière. Après la messe, il va y avoir le repas. Et après le repas, Philippe, tu veux bien nous donner quelques précisions concernant le temps de repos jusqu'à 16 heures.
Alors, de 14 heures à 18 heures, non, ça c'est les horaires d'ouverture. Vous connaissez la Corerie ? La Corerie est... avant le monastère